Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Folklore, le podcast des mythes et légendes, d'ici et d'ailleurs, d'hier et d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, comme beaucoup de personnes à travers le monde, on est ce qu'on appelle communément déconfiné. Merci le Covid-19. Résultat des courses, on est bloqué à la maison avec les chats qui miaulent et la quasi-interdiction de sortir. Mais bon, il vaut mieux ça que de prendre le risque de choper ou de refiler cette saloperie. Alors restez chez vous et profitez-en pour écouter plein de chouettes podcasts, cultivez-vous, glandez, jouez, faites l'amour, seul, ou à deux, ou à plusieurs, selon la configuration du confinement. Bref, ne déprimez pas, je suis Gabriel.
Et moi, Déborah, et vous écoutez l'épisode 3 de Folklore. Petit rappel, comme à chaque début d'épisode, nous ne sommes pas des professionnels de la mythologie, quelle qu'elle soit. On n'a pas fait d'études là-dedans, on est juste deux Pékins moyens qui partageons une attirance forte non seulement l'un envers l'autre, hein, mais aussi tous les deux envers la mythologie. Donc il se peut que l'on fasse de grossiers raccourcis, qu'on se plante, qu'on oublie des trucs, qu'on prononce mal des noms, et dans ce cas, on vous présente par avance toutes nos plates confuses. Si cependant, vous qui nous écoutez, vous êtes des spécialistes d'un sujet que l'on a traité, nous serons tout à fait ravis d'échanger avec vous sur le sujet, et pourquoi pas faire un erratum en début d'un épisode prochain pour corriger nos errances. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, folklore-lepodcast, et sur Twitter, @lefolklore.
Voilà, les choses essentielles sont dites, laissons maintenant place au mythe.
Cette histoire s'est déroulée il y a très très longtemps, à l'époque des mythes et des légendes.
Je suis Shiva, le dieu de la mort.
Dia de los Muertos a commencé.
En fait, je suis une Shinigami.
Nom de Zeus!
Mais quel est donc le thème de ce mois-ci, ma chère Déborah?
En ce mois d'avril, période de poissons, blagues et autres animaux batifolants au printemps, c'est sur ce dernier choix que notre raison s'est arrêtée. Alors, pas la copulation de nos habits des bêtes, hein, non, sur les bêtes en général. On va donc ouvrir un premier épisode d'une série, à savoir le bestiaire. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais expliquer, Gabriel, un petit peu ce que c'est qu'un bestiaire?
Donc le bestiaire est un manuscrit du Moyen-Âge qui regroupe des fables et autres récits autour d'animaux réels ou imaginaires. Maintenant, on parle de bestiaire, tout ouvrage consacré aux animaux. Par exemple, les animaux fantastiques de Norbert Dragonneau sont à la base le bestiaire de l'univers d'Harry Potter. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va soit parler d'une race d'animaux, par exemple les dragons ou les phénix, ou d'un animal particulier comme Splitnir, le cheval d'Odin, ou Cerbère, le chien des enfers de la mythologie grecque.
Ok.
Et je rappelle que tu ne sais pas ce dont je vais parler, et inversement.
Tout à fait.
Et donc, je prends la main. Aujourd'hui, on part du côté du Japon pour parler du Kitsune. Est-ce que ça te parle, Déborah?
Absolument pas.
Pourtant, si je te parle de Naruto ou Tales in Sonic, est-ce que tu vois un petit peu où je veux en venir?
Alors, Naruto, non, parce que c'est pas du tout la culture... Enfin, je suis pas du tout culture japonaise, manga, etc. Mais, c'était quoi l'autre option?
Tales in Sonic.
Ah, j'ai honte. Bah, c'est le genre de renard, hérisson? Renard?
Exactement. Ouais. En fait, un kitsune, c'est un yokai renard. Ce sont des êtres surnaturels japonais, esprits, démons, apparitions, etc. C'est un terme assez générique, et le yokai, en fait, est associé au renard. Même s'il y a des kitsune dans d'autres pays d'Asie, comme la Chine ou la Corée, il semblerait que la première mention soit faite, en fait, dans un ouvrage japonais du 4e siècle, et que les autres mentions soient issues, en fait, de la culture japonaise ayant migré dans d'autres pays.
D'accord, ok.
Il y a même un folkloriste japonais, je m'excuse à l'avance pour le nom, Kiyoshi Nozaki, qui a fait des recherches là-dessus et affirme même que les Japonais et les renards vivaient assez proches à une époque dans le Japon.
Okay.
D'ailleurs, je trouve ça assez stylé comme métier folkloriste, mais j'imagine plutôt un truc mélangeant Norbert Dragonneau X-Files, mais je pense que je m'imagine...
Je pense que c'est pas ça.
Je pense aussi.
Vrai, ça doit être des gens qui ont la tête dans des bouquins et qui interviewent des gens qui ont entendu parler d'un truc.
Ouais, mais dans ma tête, voilà, j'imaginais un petit peu ça. Bref, qu'est-ce qu'un kitsune et à quoi ça ressemble? Le terme kitsune veut dire esprit renard. Mais pas forcément esprit dans le sens fantôme, mais plus dans le sens éveil. Le renard peut naître normal, on va dire, et développer des pouvoirs tout au long de sa vie. Car oui, le kitsune a une espérance de vie assez longue, il est aussi d'une grande intelligence et a des pouvoirs magiques. En apparence, on dirait un renard classique, mais il a plusieurs queues.
D'accord.
On dit qu'un kitsune a une nouvelle queue tous les 100 ans, ainsi qu'un nouveau pouvoir, et certaines légendes disent qu'il peut gagner aussi une queue en fonction d'une action un petit peu héroïque ou de prestige.
D'accord, ok. C'est pas comme les lézards, quand ils perdent une queue, il y en a une qui repousse. C'est vraiment un truc, genre des points bonus, quoi.
Voilà. En fait, un kitsune, on connaît l'âge d'un kitsune en regardant le nombre de queues qu'il a, par exemple. Voilà, Déborah est en train de rigoler parce que je dis le mot queue.
Non, c'est que je m'y mêle. Bref, on a tous.
Lorsqu'un kitsune meurt, il peut choisir en fait de perdre une queue au lieu de mourir.
C'est un point de vie, en quelque sorte. Il échange une queue contre du bonus de vie.
Mais il perd de ses pouvoirs du coup, puisqu'il perd une queue.
Oui, mais il peut en récupérer une s'il fait une bonne action.
Pas forcément une bonne action.
D'accord.
Pas fort, parce qu'on verra plus tard que la notion de bien et de mal, c'est un petit peu différent pour eux.
Ok.
On dit qu'un kitsune ne peut avoir maximum que 9 queues, et lorsque ça arrive, sa fourrure devient blanche ou dorée, et il aurait la capacité d'entendre et de voir tout ce qui se passe dans le monde. Une légende parle aussi d'une renarde de plus de 1000 ans qui aurait 10 queues, et qu'on appellerait Tamamo no Mae.
Mais je croyais qu'il pouvait avoir que 9 queues.
Sauf celui-là qui est vraiment...
D'accord, c'est le renard cheaté, quoi.
Voilà, c'est le big boss des kitsune. Le kitsune est ce qu'on appelle un métamorphe. Il peut prendre l'apparence d'un humain, très souvent d'une belle jeune femme ou d'un vieil homme, et c'est un pouvoir en fait qu'il acquit après une centaine d'années à peu près. En fonction de la puissance du kitsune, il peut arriver qu'il garde sa queue de renard malgré sa forme humaine. C'est comme ça qu'on les démasque. Les chiens et les miroirs peuvent révéler leur forme. Lorsqu'il est découvert, souvent le kitsune reprend son apparence normale et s'enfuit. Il peut prendre possession d'une personne, bien souvent il s'agit d'une femme, on appelle ça le kitsune suki. Il rentre dans le corps en passant sous les ongles et à travers la poitrine. Leur visage peut changer et prendre l'apparence un petit peu des caractéristiques du renard.
D'accord.
Je vais lire un extrait d'un ouvrage du folkloriste Lafcadio Hearn, décrivant l'état en fait d'un possédé d'un kitsune. Étrange est la folie de ceux en qui les démons renards entrent. Quelquefois, ils courent nus et crient dans les rues. Quelquefois, ils s'allongent de l'écume aux lèvres et poussent des clapissements du renard. Et sur certaines parties de leur corps des possédés, une boule mobile apparaît sur leur peau, qui semble avoir sa vie propre. Si on la pique avec une aiguille, elle glisse instantanément à un autre endroit. Aucune prise ne permet à une main puissante de la compresser sans qu'elle ne glisse sous ses doigts. On dit aussi que les gens possédés peuvent parler et écrire dans des langues dont ils étaient totalement ignorants avant la possession. Ils ne mangent exclusivement que ce que les renards aiment, comme du tofu, des aburages, des azukemishi. Et ils mangent beaucoup, alléguant que ce n'est pas eux, mais le renard qui est affamé. Voilà un petit peu le journal d'une possédée.
Ok, c'est pas terrible comme...
Et alors, ce qui est ouf, c'est que c'était reconnu comme une maladie dès le 8e siècle, et diagnostiqué comme une maladie mentale jusqu'au 20e siècle.
Ah oui, d'accord. Oui, c'est très très pris au sérieux, alors...
Complètement. En fait, c'est ce qu'on appelle une maladie mentale culturelle. C'est un peu le même principe chez nous que la lycanthropie clinique. Je sais pas si tu connais.
Ça me dit quelque chose.
C'est qu'en fait, quand tu penses que tu te transformes en loup-garou la nuit. Je trouve ça passionnant et on n'est pas à l'abri de faire un hors-série là-dessus un jour, je pense. Mmh. Autre pouvoir du kitsune, c'est qu'il peut créer des flammes en frottant deux de ses queues l'une contre l'autre. On appelle ça le kitsune-bi. Il existe deux genres de kitsune et de 13 types différents. Les types seraient en quelque sorte leur pouvoir. Vent, terre, feu, rivière, cieux, tonnerre, montagne, vide, esprit, temps, forêt, océan et musique. Même s'ils semblent liés à tous les éléments, c'est en quelque sorte leur prédisposition.
Donc, en gros, quand tu as un kitsune, tu vas avoir une prédisposition pour la rivière, par exemple.
Par exemple. Tu seras le kitsune de l'eau, en quelque sorte.
D'accord. Et ça veut dire que tu vas vivre autour d'une source d'eau ou...
Non, c'est que tes pouvoirs sont liés à l'eau, en fait.
D'accord. Okay.
L'eau, le temps, la forêt, enfin voilà,
oui,
ils ont énormément de styles différents. Ensuite, au niveau des genres, il y a les Myobus. Il s'agit de kitsune bienveillants servant Inari, la déesse shintoïste du riz, dont ils seraient les messagers. Ils sont souvent blancs, ceux-là.
D'accord.
Ensuite, il y a les Nogitsune. Il s'agit en fait d'une catégorie supérieure de kitsune qui ne sont pas au service d'Anari. On pourrait croire qu'ils sont malveillants et farceurs, mais en fait, c'est un petit peu plus subtil que ça, d'après ce que j'ai lu. Alors, on rentre dans la partie podcast, un petit peu interprétation, c'est mon interprétation personnelle que je vais annoncer ici. De ce que j'ai lu, en fait, tous les kitsune sont plutôt espiègles et farceurs. C'est un petit peu une valeur au renard, un petit peu universelle.
Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est souvent le trait de caractère qu'on prête au renard.
Exactement. Et en tant qu'esprit, il est au-dessus de la notion de bien et de mal. Il suit ce qu'il estime juste en fonction de ses critères et de comment il est traité.
D'accord.
C'est une créature assez émotive, et qui va vite s'emporter et être très rancunier envers ceux qui lui ont causé du tort. Et inversement, il va être très loyal envers ceux qui ont gagné sa confiance. Il a un grand sens de l'honneur et tiendra toujours sa parole lorsqu'il s'engage.
D'accord. Mais ça reste des animaux sauvages. Enfin, ça reste des créatures sauvages ou ils peuvent être domestiqués ou...
Ben, ils ont été domestiqués en quelque sorte par Inari.
Oui.
Mais ça reste des animaux sauvages et qui peuvent prendre une apparence humaine.
Ah oui, c'est vrai.
Voilà,
j'ai
Ils sont polymorphes.
Oui.
Ou métamorphes, ça dépend de ce qu'on dit. Voilà un petit peu pour la présentation générale du kitsune. Est-ce que tu as des questions? Parce qu'après, je vais passer un petit peu au kitsune célèbre dans le folklore japonais.
Non, je crois que j'ai bien tout compris. Plusieurs queues, jusqu'à 9, 10 pour le grand max, une longue vie. Ils sont métamorphes ou polymorphes. Métamorphes, c'est quand tu peux te transformer en une chose, non? Et polymorphes, c'est quand tu peux te transformer en plein de choses.
Là, je sais pas trop.
Je sais plus.
En fait, ils peuvent se transformer vraiment en ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, il n'y a pas de notion de genre ou d'âge, c'est-à-dire qu'un kitsune mâle et vieux peut prendre l'apparence d'une jeune femme, et une kitsune femelle peut prendre l'apparence d'un vieil homme.
Ok. Est-ce qu'on sait pourquoi ils préfèrent les jeunes femmes ou les vieux hommes ?
En fait, c'est beaucoup parce qu'il y a une notion un petit peu de séduction, on va dire. Ils sont très dans la séduction, donc il va y avoir, je pense, la femelle, l'apparence d'une jeune femme, parce que ça va attirer un petit peu les hommes,
ouais.
Etc., et inversement, le vieil homme a quelque chose de sage et un petit peu charismatique.
D'accord.
Je pense que c'est pour ça.
Interprétation personnelle ou...
Interprétation personnelle et un petit peu de ce que j'ai lu aussi. J'ai vu aussi que souvent, les kitsune qui font des farces, c'est jamais gratuit. Il y a souvent une leçon à donner derrière à la personne.
D'accord. Bah souvent, s'ils font des farces, c'est que du coup, quelqu'un leur a fait du tort, si j'ai bien compris.
Ça ou un petit peu pour te mettre face un peu à ta cupidité ou à tes défauts,
d'accord,
tes vices, etc.
Ok.
Donc là, on va partir sur trois petites histoires rapidement que je vais présenter du folklore japonais. Donc d'abord, il y a a priori le kitsune le plus célèbre, enfin la kitsune la plus célèbre, Kuzunoha. L'empereur Murakami demande qu'on chasse des renards pour récupérer leur foie pour soigner son épouse malade. Un jeune noble, Abe no Yasuna, croise un chasseur sur le point d'abattre un renard pris au piège. Il se dit « Ouais, c'est pas très cool quand même, les renards c'est des êtres vivants, t'as vu, on va pas les buter. »
T'as vu ?
Donc, il se bat avec le chasseur et libère le renard. Mais bon, il n'est pas au top après le combat, il en chie un petit peu. Et d'un coup, apparaît une meuf appelée Kuzunoha, qui est en fait le kitsune qui est revenu pour le soigner. Elle le ramène chez lui, le soigne et revient plusieurs fois pendant sa convalescence, et ils finissent par tomber amoureux. Ils se marient, et ils ont un enfant. Et son enfant, qui s'appelle Seme, est très intelligent, et elle comprend qu'il a une partie de ses pouvoirs. Un jour, elle se fait griller par son fils qui voit sa queue de renard et elle s'enfuit dans la forêt en laissant un poème d'adieu à son mari. Son mari et son fils la cherchent dans la forêt où elle apparaît sous sa forme d'origine et leur révèle son identité et leur dit adieu pour de bon. Et avant de partir, elle donne un item à son fils qui lui permet de parler aux animaux. Et la suite, au prochain épisode, parce que c'est toute une saga a priori et, sur le fils en fait.
Ah non, mais tu peux pas te teaser comme ça.
Et si.
Mais la suite, c'est maintenant ou c'est dans un autre épisode ?
Ce sera dans un autre épisode.
Mais moi, je veux savoir maintenant.
Ok, suivant. On va parler de Tamamo no Mae. Si tu te rappelles, c'est la renarde de...
La vieille renarde à 10 queues.
Exactement. En fait, c'est un petit peu la bombasse du royaume. Elle est belle, mais aussi intelligente et mystérieuse, et toute la cour la kiffe, surtout l'empereur retiré. En gros, l'empereur retiré, c'est un empereur parti à la retraite, et c'est son fils qui dirige le royaume.
Ok.
Mais ils ont quand même un petit peu de pouvoir. Et donc lui, il a d'enf sur elle, et il ne doute pas du tout que c'est un kitsune. Mais bon, il pourrait un petit peu s'en douter, parce qu'un soir, en pleine nuit noire, alors qu'il y a une bourrasque qui a éteint toutes les chandelles du palais, elle brille dans la nuit. Et lui, il se dit « Ah, c'est quand même une personne vachement brillante, etc. »
Non, bah non.
Mais non. Exactement.
Ou alors elle est radioactive, mais...
À l'époque, je ne suis pas sûr que ça existait. Et un jour, l'empereur retiré et son fils, l'empereur actuel, tombent malades d'une maladie mystérieuse. Et l'astrologue slash exorciste de la cour dit que c'est la faute de Tamamo no Mae. Soit dit en passant, astrologue exorciste, je trouve ça quand même aussi classe comme job.
Bah c'est pas Rasputin qui faisait ça aussi ?
Ouais, ou Merlin en quelque sorte dans Kaamelott.
Oui, mais en raté quoi.
C'est ça. Et parce qu'en fait il a découvert sa vraie nature et que c'est une kitsune maléfique. Elle a été piégée, chassée et tuée d'une flèche magique dans son cœur. Et son cœur en fait devient une pierre précieuse avec son esprit dedans qui hante les gens. Voilà un petit peu pour Tamamo no Mae. Enfin, dernière petite histoire qui est une de mes préférées, je dois dire, c'est John Kuru. En fait, il s'agit d'un kitsune dont les parents, qui étaient des kitsune très très vieux depuis 1000 ans, ont été tués et dépecés pour utiliser leur peau pour faire un tambourin magique.
Sympa.
Après un certain temps, il retrouve la trace du tambourin chez Lady Shizuka, qui est la maîtresse de Yoshitsue, un général. Et du coup, Genguru, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend l'apparence d'un garde du corps de Yoshitsume pour se rapprocher du tambourin et le voler. Mais il se fait griller et explique en fait que l'esprit de ses parents habite ce tambourin et qu'il entend leur voix chaque fois que quelqu'un tape dessus. Du coup, Lady Shizuka et Yoshitsue acceptent de lui rendre le tambourin et pour le remercier, il accepte d'utiliser ses pouvoirs pour les protéger.
D'accord. Je trouvais c'est une belle histoire, ça, ouais.
Ouais, je trouvais l'histoire assez belle.
Ouais. Oui, ça montre le côté plutôt aussi positif, en fait, que c'est pas que du négatif.
Oui, voilà, mais même, c'est pas que du négatif, parce que quand même, sur trois histoires, on en a quand même deux où
oui,
c'est plutôt
deux
positif.
Où c'est plutôt positif, ouais.
Voilà. Dernier petit truc avant de conclure sur le kitsune. Est-ce que vous saviez qu'en France, le renard, ce n'est pas son vrai nom ? C'est ce qu'on appelle une antomase. C'est quand un nom propre devient un nom commun ou finit par remplacer un nom commun. Par exemple, sopalin au frigo, mais aussi poubelle qui tient son nom de Eugène Poubelle. Et donc, dans notre cas, en fait, ça vient du roman de Renard, où le personnage principal est un goupil appelé Renard avec un T, et c'est devenu tellement populaire que ce nom a fini par prendre le dessus sur le nom goupil, et c'est devenu Renard avec un D. Donc, en fait, nos renards sont des goupils.
Sont des goupils. Mais ça, je le savais. Enfin, je savais que, oui, qu'il y avait eu transformation du nom. Mais je trouve ça super intéressant, d'ailleurs. Ça... Autant sur des objets du quotidien, ça peut paraître... logique, mais sur un animal, c'est quand même assez...
Ouais, c'est assez cool.
Ouais.
Voilà un petit peu pour moi.
C'est super intéressant. Je connaissais pas du tout les kitsune, tu vois.
C'est un des yokai des plus populaires du folklore japonais.
Ok. Bon, bah c'est très cool.
Voilà. À toi, ma chère Déborah.
Come on. Daddy comes.
À mon tour de vous parler d'une bestiole, mais pas n'importe laquelle. Cette bête-là, elle vient des Amérindiens du Nord-Ouest. Il s'agit de l'oiseau tonnerre. Alors, peut-être, et même sûrement que bon nombre d'entre vous ont déjà entendu parler du Thunderbird, qui est le nom connu de cet oiseau, et moi aussi, hein, j'avoue que je connaissais déjà vaguement cette créature, mais je ne m'étais jamais penchée sur ses origines et sur cette mythologie en particulier. Et toi, Gabriel, est-ce que tu connaissais le Thunderbird, l'oiseau de tonnerre ?
Bah, moi, pour moi, c'était surtout une série des années 80 avec un hélicoptère un peu spécial.
Ouais, alors super, je viens de rayer une de mes références culturelles de fin d'épisode, mais c'est pas grave, j'en ai encore plein d'autres en réserve.
Mais ça n'est pas dans les chevaliers du Zodiac, rassure-toi.
Mais j'espère bien, c'est quand même pas tout à fait localisé au même endroit. Donc ouais, l'oiseau tonnerre, le Thunderbird, ça te dit rien de plus à part ça ?
À part ça, non.
Ok. Pour introduire cette partie, je vais vous lire un petit extrait d'un article intitulé « Au pays des hommes rouges », paru dans la revue hebdomadaire « Romans, histoire, voyage », publié en 1933, que j'ai trouvé sur...
Gallica.
Gallica, bien sûr ! C'est ma source de référence préférée. Mais qui donc en Europe connaît l'oiseau tonnerre ? La tradition sans âge veut qu'il soit synonyme de vie immanente. Véhicule de la foudre, on dit de lui, là-bas, en pays rouge, que le clignement de ses yeux produit l'éclair et le battement de ses ailes les grondements du tonnerre. Il est oiseau de feu par excellence, ancêtre générateur qui, malgré l'agonie de son peuple, demeura témoin de ses gloires.
Ça a l'air hyper stylé.
C'est quand même badass, mais tu verras, t'es pas au bout de tes surprises. L'oiseau tonnerre nous vient donc de la culture amérindienne. Il est représenté comme un oiseau gigantesque, tellement grand qu'il pourrait soulever des baleines, comme un aigle soulèverait un saumon, par exemple.
D'accord.
Donc tu te représentes un aigle qui prend dans ses serres un saumon et qui s'envole, et puis maintenant tu multiplies ça par rapport à la taille d'une baleine.
D'accord.
L'oiseau, voilà.
Il est pas mal.
C'est pas de la gnognotte.
Pas des petits oiseaux.
Comme on dit chez moi, mère dit c'est pas de la gnognotte. Bisous maman. La majorité de ces représentations sont soit des peintures sur des murs à flanc de montagne ou dans des grottes, ce qu'on appelle l'art pariétal, soit sur des totems, et il occupe souvent le haut de ces derniers. Donc en général, quand un élément occupe le haut d'un totem pour des natifs américains, c'est que...
On est...
Voilà, on est sur de la bête de qualité. Et d'ailleurs, c'est principalement devant les demeures des chefs que l'on retrouve les totems à oiseau tonnerre, car il est synonyme de force et de pouvoir.
Et on met pas aussi les paratonnerres à côté des maisons des chefs, au cas où Pardon.
Cette blague n'est pas validée par le comité de la blague.
Super.
Désolé. Peu importe la tribu qui l'honore, ses caractéristiques magiques sont toujours à peu près les mêmes, à savoir qu'il véhicule le tonnerre par le battement de ses ailes et la foudre par le clignement de ses yeux. Il se déplace uniquement dans les gros nuages noirs, ce qui annonce les tempêtes, et il est donc extrêmement difficile à identifier, ce qui fait évidemment le bonheur des cryptozoologues, mais ça, on y reviendra plus tard. Son rôle est donc double. Il sème à la fois la terreur en amenant les gros orages et les tempêtes, la grêle, etc., tout ce qui peut détruire les constructions et les plantations des hommes. Mais il est également l'annonciateur de la pluie régénératrice, qui permet de nourrir et d'abreuver les sols, les animaux sauvages que les Indiens chassent, etc.
D'accord.
Alors, j'ai déjà fait une faute en parlant de culture amérindienne. Enfin, c'est une faute sans lettres, mais c'est un peu comme si je disais la gastronomie française pour parler de la choucroute, de la bouillabaisse et du kouign-amann. En fait, il y a énormément de tribus qui vivaient dans ces grands espaces, et si la plupart d'entre elles partageaient des divinités communes, chacune a sa propre façon de les honorer, voire de les nommer. L'oiseau tonnerre s'appelle Baha, chez les gros ventres et chez les Atsina, des tribus que l'on retrouve au nord du Montana, et c'est lui qui offrit le calumet de la paix aux hommes.
D'accord.
Pour les tribus des plaines, comme les Arapaho, l'oiseau tonnerre est associé aux saisons. Il représente l'été et la baleine blanche représente l'hiver. Je reviendrai un petit peu sur ce point-là plus tard. Chez les Algonquins, le Thunderbird contrôle le monde d'en haut, alors que le monde d'en bas est aux mains du grand serpent cornu, qui est une divinité que l'on retrouve aussi énormément dans la culture amérindienne. L'oiseau tonnerre est donc ici protecteur des hommes. Il peut porter le nom de Binezi, Sheka, ou encore Kulo. Dans le Wisconsin, les Minimini parlent d'une grande montagne flottant dans le ciel et qui serait la demeure des Thunderbirds. Encore une fois, on retrouve encore l'opposition avec le grand serpent cornu dans cette mythologie-là. Pour les Ojibwés, les Thunderbirds, aussi appelés les Binezi, combattent les esprits marins. Selon eux, les oiseaux tonnerres sont là pour punir les hommes qui dérogent aux règles morales de leur tribu. L'oiseau originel aurait été créé par un grand esprit un peu farceur, Nana Bosso. Dans ce culte, les oiseaux tonnerres sont des oiseaux migrateurs et qui reviennent en terre des Ojibwés en été avec les autres oiseaux et qui suivent aussi leur migration. Chez les Winnebago, si un homme a la vision d'un oiseau tonnerre pendant un jeûne solitaire, il deviendra un grand chef de guerre. Et enfin, chez les Sioux, il s'appelle Wikinian et il protège les humains des grands reptiles. On retrouve toujours un petit peu cette histoire de reptiles...
D'accord, ouais, il y a énormément en fait, de versions de l'oiseau tonnerre, j'ai l'impression, en fait.
Ouais, c'est ça. En fait, chaque tribu de natifs américains l'a un peu, je pense, adapté à l'endroit où il vivait, selon qu'il soit dans les plaines ou sur les côtes. Par exemple, quand on se retrouve sur les côtes, il y a souvent la dualité avec la baleine, alors que quand on est plutôt vers les terres, on a la dualité avec le grand serpent cornu.
D'accord.
C'est, voilà. Mais grosso modo, quand on a de la tempête, du tonnerre, des éclairs, de la grêle...
C'est l'oiseau tonnerre.
Tonnerre, le Thunderbird qui est
pas loin.
Pas loin.
Mais il est plutôt protecteur ou
Ben ça dépend. Ça dépend des tribus. Ça dépend de la façon dont la transmission orale s'est faite aussi.
Ouais.
Et on le verra dans les quelques histoires que je vais raconter plus tard qu'il y a du bon, du moins bon, ça dépend.
Ok.
Par exemple, on ne retrouve pas explicitement le Thunderbird chez les Cherokees, qui eux considèrent plutôt les forces météorologiques comme des Thunderers, désolé pour cet accent gardois, mais je me garderai bien d'essayer de vous faire la version Cherokee du mot Thunderers. Déjà qu'en anglais c'est assez pathétique, mais alors en Cherokee c'était pour moi imprononçable. Et j'ai déjà fait beaucoup d'efforts sur l'épisode de Tumatuenga et je me sentais pas de m'illustrer encore dans un écorchage de mots.
D'ailleurs, je crois que les gens attendent encore les 60 dieux
maoris. Et bien justement, j'y reviendrai plus tard là-dessus. En effet, pour ces tribus appartenant aux Cherokees, les Thunderers sont un ensemble d'esprits liés à la tempête, qui vivent dans le ciel et qui commandent le tonnerre et les éclairs. Contrairement donc aux autres tribus qui y voient un oiseau, chez les Cherokees, il s'agit d'êtres humanoïdes. Chez les Iroquois, on parle aussi des Thunders, mais ils sont mi-hommes, mi-volatiles, et le chef des Thunders se nomme pour certaines tribus iroquois, Inon, ou Ino, qui est l'esprit tonnerre gardien du ciel, ennemi juré du serpent cornu Onyare. Voilà. Je ne rentre pas trop dans les détails ici, ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode ou d'un bonus, cette dualité avec le serpent cornu, donc je garde ça sous le coude, et puis...
On sait jamais.
Comme toi... On va se garder des choses sous le coude. Parlons un peu des origines du mythe, de la légende, les débuts de cet équivalent de dieu pour les Amérindiens. D'où vient l'oiseau tonnerre ? Alors, j'ai pu retrouver plusieurs légendes, dont voici une petite sélection. Évidemment, sauf à se rendre sur place et à vivre au cœur d'une tribu d'Amérindiens bien avant l'arrivée des colons de l'autre côté de l'Atlantique, je pense qu'il est difficile de savoir si ces légendes entourant le Thunderbird sont historiquement véridiques, c'est-à-dire qu'elles sont bel et bien oralement héritées des anciennes populations de cette région du monde. Mais bon, je vous les livre quand même, prenez-les avec des pincettes. La première histoire est sans doute la plus connue. Je l'ai baptisée le mythe du faucon crâneur. C'est un mythe fondateur qui explique la naissance de l'oiseau tonnerre. On raconte que dans des temps anciens vivait un faucon très bon avec les humains et avec les autres animaux, mais doté d'une grande puissance. Devant cet être vivant déjà doté de fortes capacités, les esprits du tonnerre décidèrent de lui permettre de les invoquer au besoin pour aider la vie sur Terre. Pour cela, il lui fallait respecter un rituel sacré, composé de plusieurs parties. Il fallait qu'il trace un cercle, qu'il apporte des offrandes, qu'il invite certains animaux à le voir invoquer les esprits du tonnerre, et surtout qu'il remercie le grand esprit. Le grand esprit, c'est ce qui domine en fait dans la culture, dans la plupart des cultures amérindiennes, c'est l'équivalent d'un Zeus, je pense, ou... Enfin, je veux pas faire de raccourci facile, mais en gros, c'est la divinité.
Ouais, mais je pense pas qu'elle a apparence humaine, comme tu cites Zeus.
Ah non, non, c'est simplement en termes de pouvoir, si tu veux, de représentation. C'est en gros... C'est
Gaïa
que... Ouais, ça serait Gaïa, ouais, c'est ça. Avec cela, ils lui enseignèrent également les chants rituels, parce qu'une cérémonie sans offrande et sans chanson, tu ressembles un peu à Baptiste qui fait son petit feu sur son lit, hein, pour ceux qui ont la référence, ça claque un peu moins.
Oui, et puis on s'emmerde un petit peu sans musique.
Voilà, c'est ça. Dès qu'il en eut le besoin, le faucon invoqua les esprits du tonnerre en respectant le rituel enseigné, et puis, à chaque fois, il gagna un peu en puissance. Chaque appel le rendait plus fort, plus majestueux, mais aussi malheureusement plus imbu de sa petite personne, tant et si bien qu'il décida un jour d'inviter tous les animaux à le voir invoquer les esprits du tonnerre, et tout fier de lui, il se contenta de chanter, sans respecter les indications du rituel habituel. Évidemment, ça ne se passa pas comme prévu. Le grand esprit, un peu vénère de s'être déplacé pour ce faucon qui se la jouait un peu beau gosse, l'enleva tout simplement pour le punir. Et la punition était à la hauteur de l'affront. Il ne pouvait plus bénéficier des pouvoirs transmis par les esprits du tonnerre, mais il en devint en plus l'esclave. Au lieu de pouvoir invoquer la force du tonnerre, c'est lui qui devait répondre à son appel. Contraint à suivre les esprits du tonnerre partout, il est condamné à apparaître comme un gros nuage noir, comme un éclair qui fend le ciel, mais seuls les hommes attentifs, notamment les chamans, sont en capacité de le voir clairement. Il restera serviteur des esprits tant qu'il n'aura pas compris où était sa place dans l'univers. En gros, tant qu'il n'aura pas perdu sa grosse tête, quoi.
Voilà, un peu d'humilité.
Un peu d'humilité. Mais je trouve ça vachement intéressant, ce côté dans cette histoire de l'être à qui on donne la possibilité d'avoir de la puissance et qui en fait la prend sans rien donner en retour et considère les choses comme acquises et à un moment donné se prend un violent retour de bâton.
Ben ça, c'est quelque chose qui revient souvent parce que la mythologie aussi nous apprend que il y a des conséquences à ce qu'on fait et voilà, il y a toujours de toute façon une petite leçon dans la mythologie à chaque fois.
Tout à fait. Et donc là, évidemment, je ne l'ai pas dit, mais ce faucon, bah, c'est le Thunderbird, en fait.
On avait compris. Enfin, moi, j'avais compris. Et vous
Vous, on ne sait pas trop, hein.
Tout le monde suit, c'est bon.
La seconde histoire parle d'un couple d'oiseaux tonnerres qui vivaient en haut d'une immense montagne dont on ne voyait jamais le sommet. Ils côtoyaient les cieux avec un dragon de silex, contre lequel ils ne parvenaient pas à se défendre lorsque celui-ci venait dévorer leurs œufs. Ils décidèrent de faire appel aux hommes pour les aider à vaincre ce dragon, et enlevèrent le meilleur chasseur qu'ils trouvèrent. Ce dernier réussit à vaincre le dragon de Silex, permettant aux oiseaux tonnerres de se reproduire en paix. Depuis, ils apportent aux hommes l'eau de pluie nécessaire aux cultures et à la survie des animaux sauvages pour que les hommes puissent les chasser et avoir de la nourriture.
Non, c'est une belle histoire, ça, là.
Tu vois, celle-ci, elle est assez positive. Alors, le faucon, il se l'est quand même pris dans la tronche, donc c'est pas hyper positif, mais... D'autres histoires parlent de cette relation entre les hommes et les oiseaux tonnerres pour expliquer notamment que le tonnerre qui gronde est aussi signe d'une mort imminente au sein de la tribu. Je vais pas raconter toutes les histoires, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais voilà, il y a une histoire où justement, un décès était accompagné de l'arrivée de l'oiseau tonnerre, et donc, à partir de ce moment-là, le grondement du tonnerre, c'était l'oiseau tonnerre qui venait, un peu comme la faucheuse, récupérer l'âme d'un natif américain.
Oui, de toute façon, dès qu'on rentre dans le bestiaire, il y a énormément d'histoires, donc c'est vrai qu'on a fait une petite sélection aussi de ce qui était intéressant à découvrir.
Tout à fait. Une dernière petite histoire qui raconte la lutte entre le ciel et l'océan, deux lieux qui restaient inconnus, inaccessibles et mystérieux pour les natifs américains et donc source de nombreuses légendes et divinités, puisque les Indiens ne savaient pas ni nager dans les profondeurs,
ni voler.
Ni voler, voilà. Donc forcément, eux, ils étaient en connaissance de ce qu'il y a sur Terre, mais par contre, ce qu'il y a dans les airs et dans l'océan, c'est quelque chose de très mystérieux pour eux. J'ai parlé tout à l'heure de la vision des tribus des plaines qui associaient l'hiver à la baleine blanche et l'été à l'oiseau tonnerre. Cette légende raconte qu'une baleine dévorait ses congénères, privant ainsi les hommes d'une grande quantité de nourriture, certaines tribus côtières se nourrissant en hiver principalement avec des baleines échouées. En fait, c'est souvent à cette période que les cétacés s'échouent sur les plages, et les Amérindiens ont donc naturellement associé la saison hivernale avec l'arrivée des baleines sur les plages.
D'accord.
Donc, l'hiver, la baleine. C'est toujours très naturel, hein, de toute façon, dans ces cultures-là. Tout est lié à la nature, tout est lié aux saisons, tout est lié au cycle, à la météo. Moi, je trouve ça vraiment hyper intéressant. Afin de rétablir l'équilibre, donc de permettre aux hommes de retrouver la nourriture hivernale dont ils avaient l'habitude, un immense oiseau, certainement envoyé par le grand esprit, vint combattre la baleine vorace. Après une grosse bataille, équivalente à un ouragan en termes de puissance, l'oiseau attrapa la baleine dans ses serres et s'envola aussi haut qu'il le put, puis il lâcha la baleine. En tombant dans l'eau, son adversaire cessa de vivre, et le vacarme assourdissant du choc permit aux hommes d'associer à cet immense oiseau le bruit du tonnerre.
D'accord.
Et donc, l'oiseau tonnerre.
Logique.
Voilà.
On retrouve ce que tu disais, qu'il était capable de prendre, du coup, une baleine dans ses serres.
Tout à fait. Voilà, c'est tout pour ma sélection d'histoires, mais sachez qu'il y en a à peu près donc autant que de tribus de natifs américains. Maintenant, j'aimerais revenir sur cet oiseau en particulier. Comme souvent, quand on parle de bestiaire, on a un mot actuel qui nous vient en tête, enfin, en tout cas, qui me vient en tête, c'est la cryptozoologie. Pour celles et ceux qui ne sauraient pas ce qu'est la cryptozoologie, il s'agit d'un courant d'études qui désigne la recherche des animaux dont l'existence n'a pas été prouvée de manière scientifique et irréfutable. Ces animaux-là, on les classe dans la catégorie des cryptides. Pour vous donner des exemples, on a par exemple Nessie, le monstre du Loch Ness, qui est un cryptide. On a également le Kraken, le Yeti, le Chupacabra, etc., etc. L'un des pionniers de la discipline fut Ivan Terence Sanderson, qui lui trouva aussi son nom, donc la cryptozoologie. Pour faire une bonne étude en cryptozoologie, il faut d'abord un mythe, une légende, des témoignages peu fiables et parfois des preuves d'origine et de valeur assez douteuses. À partir de là, les cryptozoologues vont essayer de croiser tout un tas de disciplines scientifiques pour étayer leurs recherches. La zoologie, évidemment, mais également la paléontologie, l'histoire des hommes à travers des documents d'archives, des traditions orales, etc., voire même lancer des sortes d'enquêtes de police scientifique. On ne va pas débattre ici sur le fait que la cryptozoologie soit ou non une science, hein, c'est vraiment pas le sujet, mais c'est simplement pour vous dire que les éléments de description physique du Thunderbird qui vont suivre sont purement issus de recherches en cryptozoologie, donc à prendre avec à peu près 1 milliard de pincettes.
Oui, puis un dernier petit truc que je trouve assez rigolo sur la cryptozoologie, c'est qu'en fait, une fois que t'as prouvé que l'animal existe, ben t'es au chômage.
Ah, en fait, mais tu trouves une autre sujet de recherche.
Mais tu passes ta vie à dire, ah là là, je vais essayer de prouver ça, j'ai prouvé, et du coup, tu perds ton boulot, il faut que tu en trouves un nouveau.
Ouais, mais je suis pas sûre que tu perds ton boulot, parce qu'à partir du moment où t'arrives à prouver que, par exemple, l'oiseau tonnerre existe, mais je pense que tu deviens tellement milliardaire, t'es invité sur tous les plateaux de télé, tes bouquins se vendent à un nombre d'exemplaires.
Oui, mais tu deviens auteur, tu deviens plus cryptozoologue, puisque du coup, voilà, c'est des...
Ah, tu peux trouver un autre sujet de recherche.
Voilà, mais je crois qu'il y avait eu un truc qui disait, si je ne dis pas de bêtises, c'est vraiment à prendre avec des pincettes ça aussi, qu'il y avait des cryptozoologues qui disaient que peut-être que la licorne, en fait, c'était des témoignages rapportés du rhinocéros. Tu vois, cet animal à quatre pattes avec une corne.
Oui, bien sûr.
Je sais pas si c'est la cryptozoologie ou quoi, mais j'avais lu un truc là-dessus.
Des scientifiques qui essayaient de descendre des études de cryptozoologues, mais je sais pas.
Ouais, je sais pas non plus.
Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est assez intéressant. Ainsi, on dépeint le Thunderbird avec une tête chauve surmontée d'une collerette blanche et des plumes noires ou brunes sur le reste du corps qui tire vers le gris quand il commence à vieillir. Il a de grands yeux noirs et un bec non crochu. Ses pattes sont épaisses et courtes. Son battement d'ailes est si puissant qu'il génère un bruit ressemblant à celui du tonnerre, et il se nourrit de mammifères vivants ou de charognes. Côté observation, réel, les tribus de natifs américains ont expliqué que l'oiseau tonnerre a disparu à l'arrivée des Européens sur leur terre. un peu comme si ils avaient perdu leur divinité, une de leurs divinités les plus puissantes. Cependant, un Thunderbird a été aperçu à de nombreuses reprises, et vous pouvez chercher ça sur les internets si ça vous intéresse. Moi, je vais pas me lancer là-dedans parce que j'ai déjà beaucoup parlé, puis que c'est pas forcément le plus intéressant.
On va dépasser un petit peu notre seuil de, voilà, de compétences.
Mais selon des études en cryptozoologie effectuées sur cet oiseau, il serait le probable descendant du Teratorn, ou Teratornis incredibilis de son nom savant, qui pouvait atteindre 5 à 6 mètres d'envergure, et qui vivait à l'époque du Pléistocène supérieur, c'est-à-dire il y a entre 126 000 et 11 700 ans environ, d'après Wikipédia, qui situe cette période...
On est sur une bonne fourchette.
On est sur une fourche.
Un râteau.
On est sur un tractopelle ou un...
un trident.
Oh, joli.
Folklore.
Une explication plus scientifique de l'origine du mythe serait, d'après des ornithologues, liée au déplacement des oiseaux migrateurs, possiblement de grands rapaces, dont le retour sur les terres des Amérindiens coïnciderait avec la période des grands orages. Il serait aussi très probablement question de grands condors de Californie, qui font à peu près 2,9 mètres d'envergure.
C'est le rapace le plus grand, je crois.
C'est ça. On vous montrera une photo sur Twitter pour que vous fassiez une petite idée de la bête. A noter donc que le condor de Californie est sur la liste des espèces menacées en danger critique d'extinction. Et ce qui est intéressant, c'est que auparavant, on le trouvait dans le nord du continent, ce qui semble coïncider avec la localisation de nos tribus, donc ce qui pourrait expliquer cette association en fait de la vue de cet oiseau, très grand quand même, qui fait presque 3 mètres d'envergure, et peut-être qu'il est arrivé à un moment où il y avait des orages, parce que c'est dans la période de migration, le moment où ils arrivent à la saison des pluies et des tempêtes. Voilà.
On n'était pas là, on peut pas savoir.
Mais en tout cas, moi je me suis régalée de découvrir ça, parce que je connaissais pas plus.
C'est ce qui nous plaît aussi dans Folklore, justement, de découvrir des cultures voilà, qu'on connaît pas. Moi, les Kitsune, c'est vrai que je connaissais un petit peu les mangas, mais j'ai appris un petit peu plus l'origine du mythe.
Ouais.
On va passer aux références, Déborah.
Allez, c'est parti, Gabriel.
Et voici les références dans la pop culture.
Alors, du coup, c'est moi qui vais commencer avec les références, tu es d'accord ?
Mais je t'en prie.
Pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur le folklore japonais, et notamment les kitsune, je vous conseille tout d'abord le dictionnaire des yokai. C'est un petit livre de poche qui a l'air assez sympa et illustré pour rentrer facilement, on va dire, dans le sujet. Sinon, je vous conseille aussi À l'intérieur des yokai, de Shigeru Mizuki, aux éditions Cornelius. Et pour ceux qui veulent un truc un petit peu plus dense, je vous conseille Kojiki, Chronique des faits anciens, écrit par Pierre Winkler, et avec les calligraphies de Yukako Mitsui. Voilà un petit peu pour les ouvrages, on va dire, un petit peu sérieux. Pour ce qui est maintenant de la pop culture, c'est ce qui nous intéresse un petit peu plus, forcément niveau manga, je cite rapidement Naruto, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est un manga qui est quand même assez connu et je pense qu'à peu près tout le monde le connaît. Mais juste rappeler que le personnage principal abrite en lui un démon renard de 9 queues appelé Kyuubi qui lui donne un petit peu quelques pouvoirs.
Naruto ?
Ah
bah tu vois, je ne le savais même pas.
Non, mais tu t'intéresses pas au manga.
Non, ce n'est pas que je ne m'intéresse pas, c'est que je n'ai pas d'appétence pour les mangas.
C'est dommage.
Mais je sais que c'est dommage, mais il y a des trucs que j'aime et que qui ne t'intéressent pas.
Si.
Non, c'est faux.
Mais je vais plutôt vous parler d'un manga que je vous conseille si vous êtes fan de mythologie japonaise, qui s'appelle Inuyasha, par Rumiko Takahashi. Ça se passe dans un Japon médiéval, en fait, où les humains et les yokai se côtoient. Et on suit Inuyasha, qui est un demi-démon qui recherche les fragments de la perle de Shikon, qui possède un immense pouvoir. Forcément, dans ce genre d'histoire, on a une petite équipe qui se crée autour du héros, et le personnage dont on va parler, qui s'appelle Shippo. C'est un jeune kitsune orphelin, dont les pouvoirs sont encore un petit peu bancals. Il se transforme, mais souvent sa queue est toujours visible, comme on en a parlé un petit peu dans le podcast.
Ils ont du mal à, parfois...
C'est l'élément qui se révèle le plus possible. Et ces transformations sont aussi un petit peu approximatives. C'est un manga que je trouve très très cool et... pas très connu, qui mériterait d'être un petit peu plus connu. Je fais d'ailleurs une petite dédicace à ma pote Manon, qui m'a fait découvrir ce manga, et qui m'a donné envie de creuser un petit peu de ce côté-là pour le bestiaire du jour.
Big up, Manon.
Je voudrais aussi parler d'un autre manga que j'ai adoré quand j'étais adolescent, qui s'appelle Yo-Yo Hakusho. C'est l'histoire d'un lycéen qui meurt, puis revient à la vie et devient détective des ténèbres, c'est-à-dire qu'il affronte des démons et des monstres pour protéger notre monde. Dans son équipe, il y a notamment deux démons, dont un qui s'appelle Kurama, qui est la réincarnation d'un démon renard dans un humain. C'est le personnage le plus calme, intelligent et calculateur du groupe. Donc on retrouve encore la valeur du Kitsune plutôt intelligent.
Plutôt malin, plutôt.
Côté jeu vidéo, dans Pokémon, on a Goopix, qui est un renard roux à six queues, qui évolue en Fena, un renard blanc à neuf queues.
Ouais, c'est effectivement. J'aurais dû l'avoir dès le début, ça. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé.
Il était assez évident, celui-là. Et dans Dofus, un MMORPG français, dans un donjon, il y a des Kitsune, enfin des créatures inspirées des Kitsune. Je crois que le donjon s'appelle Kitsune, mais OU. Et ils ont chacun une couleur différente en fonction de leur élément.
Ok.
Donc il rejoint un petit peu ce qu'on disait au niveau des Kitsune. Aussi dans la saga de littérature jeunesse The Vampire Diaries, de Edgy Smith, mais que dans les bouquins, pas dans l'adaptation en série. Dans les tomes 3, 4 et 5, il y a deux personnages japonais, des jumeaux, Shinichi et Misao, qui sont tous les deux des Kitsune, et notamment les méchants principaux de cet arc narratif. Ils sont plutôt manipulateurs et peuvent changer d'apparence.
Ouais.
On retrouve encore
des fourbes, ouais.
Des Kitsune, hein.
Des Kitsune.
Autre petite référence dans la série Teen Wolf, on a le personnage de Kira Yukimura, qui apparaît dans la saison 3 et qui reste, je crois, jusqu'à la saison 5, qui est en fait une Kitsune du tonnerre. Donc elle a l'air assez badass.
Kitsune du tonnerre, ça a un lien avec l'oiseau tonnerre.
Peut-être, toute la famille tonnerre. Et autre petite référence que j'ai trouvé plutôt cool, c'est dans le jeu de cartes Magic, dans le bloc Kamigawa, qui est sorti en 2004. Ça s'inspire énormément du folklore japonais, donc je pense qu'on y reviendra peut-être d'autres fois dans d'autres épisodes. On découvre les cartes de Kitsune, et je les trouve d'ailleurs hyper stylées. Je vous mettrai une photo sur le Facebook et le Twitter de folklore.
Ok.
Voilà, c'est tout pour moi.
Eh ben, c'est déjà très bien. Effectivement, moi, j'avais pas pensé, tu vois, les Pokémon et tout.
Je
peux avoir, mais les Pokémon, je pense que bestiaire, dès que tu tapes dans le bestiaire, t'as forcément un Pokémon qui est lié, quoi.
Ah ben oui, mais même, c'est énormément, il y a énormément de références au bestiaire du folklore japonais dans Pokémon, notamment les Magikarp. En fait, il y a une légende qui dit que quand un saumon remonte une cascade, il se transforme en dragon. Et le Magikarp, du coup, est un poisson un peu pourri qui se transforme en Lediator, qui est une créature assez badass. Non, Pokémon, ouais. Si vous voulez des références... D'ailleurs, il y a une vidéo de League of the Sun qui en parle, qui est assez
oui,
stylée.
C'est vrai. Et d'ailleurs, on va passer à mes références, mais tu verras qu'il n'y a pas forcément que des mythes japonais qui se retrouvent dans Pokémon.
Ah, teasing.
Teasing de ouf. Alors, pour ma part, pour une fois, j'ai énormément de références à vous donner. Il y en a tellement qu'il m'a fallu faire des choix. Et j'ai essayé de piocher dans un peu tous les univers, tous les arts, tous les types de créations pour vous dresser un large portrait de la réputation du Thunderbird dans la pop culture. Tout d'abord, deux références pour les Potterheads. La première référence est présente dans les Animaux Fantastiques. Est-ce que tu l'as, Gabriel ?
Ah, mais c'est pas l'espèce de griffon que Norbert Dragonneau ramène...
Eh ben si, c'est l'oiseau géant qui accompagne Norbert Dragonneau. Ce dernier, surnommé Frank, est en fait un oiseau tonnerre.
D'accord, je ne me rappelais pas que c'était un oiseau, je pensais que c'était un griffon ou un truc comme ça.
Non, c'est un oiseau. Je veux pas spoiler, même si depuis il y a prescription quand même, mais la créature lui vient quand même pas mal en aide. La morphologie de l'animal diffère des représentations traditionnelles, parce qu'il a des paires d'ailes supplémentaires, mais bon, l'esprit y est, et l'histoire de l'animal dans ce film est vraiment touchante.
Ah, je l'ai pas vu venir, c'est vrai qu'en plus il disait qu'il le ramenait dans son pays, etc.
C'est ça, et qu'il le ramène dans les grands espaces. Ouais. Bon, bah là du coup on vient de spoiler, tant pis, mais...
Oui.
Mais voilà, donc du coup... re-regardez les Animaux Fantastiques et puis vous verrez Frank avec un œil nouveau. La seconde, toujours dans l'univers d'Harry Potter, est en fait le nom d'une des quatre maisons d'Ilvermorny, une école américaine fictive de sorcellerie créée par J.K. Rowling, toujours mentionnée dans les Animaux Fantastiques, dont l'histoire se déroule pour les moins informés aux États-Unis. C'est d'ailleurs la maison d'une des protagonistes du film, Tina Goldstein, lorsqu'elle était étudiante.
D'accord.
On a aussi, et donc on en a parlé avec tes références à toi, une nette et claire référence à l'oiseau tonnerre chez les Pokémon. Est-ce que tu saurais me dire avec lequel ne regarde pas mon écran?
Alors attends, c'est dans le Pokémon 1. Attends. Tac. Ah putain, je l'ai pas. Attends. C'est pas Sulfura, c'est... Non, je l'ai pas. Elector.
T'as T'as pas triché au moins.
Non, j'ai pas triché, mais venu d'un...
Très bien, Elector, en effet. Même si la taille du Pokémon ne dépasse pas le 1m60, ses attaques sont clairement assimilables au Thunderbird, tout comme son milieu naturel, à savoir les nuages.
Ah, c'est vrai, j'avais pas du tout fait le rapprochement, ouais.
Et ouais. Chez Marvel, on retrouve le personnage du Thunderbird, assez maladroitement traduit en français par l'épervier, le Thunderbird étant incarné par différents personnages au cours de l'histoire de Marvel. On change totalement d'univers et on passe au domaine musical, avec la chanson L'Oiseau Tonnerre de...
ACDC.
Michel Sardou.
Ah merde.
Spéciale dédicace à Stockholm Sardou, qui doivent être à peu près les seuls à connaître cette chanson, qui parle donc des Amérindiens et des colons qui sont venus les déloger. Comme d'habitude, avec Sardou, c'est assez consensuel. Ben voilà, c'est du Sardou, quoi.
C'est du Sardou.
Voilà. Le Thunderbird, c'est aussi un boss dans le jeu The Adventure of Link, une forme de vie créée par le roi d'Hyrule pour protéger la Triforce, la puissance des dieux.
J'ai pas joué à celui-là, donc...
T'as pas joué à The Adventure of Link. Eh ben, les vrais sauront. Dans Horizon Zero Dawn, un jeu open world, la créature mécanique appelée Stormbird n'est autre qu'une adaptation du Thunderbird. On vous partagera le trailer PlayStation du jeu sur les réseaux. Et enfin, dans l'épisode 58 de Yakari. Est-ce que tu connais Yakari ?
Je crois que c'est une BD franco-belge, non ?
Voilà, et ben dans l'épisode que vous pouvez trouver sur les internets, sur YouTube... l'épisode 58 de Yakari, nommé le fracas de l'oiseau tonnerre, il en faut pour tous les auditeurs, les petits, les grands, et puis je vous ai dit que l'oiseau tonnerre était partout. Voilà, vous avez sûrement d'autres idées de références en tête, je pense notamment à la série Thunderbird, les sentinelles de l'air en français dont tu nous as parlé en début d'épisode, ou encore à un client de messagerie.
Ah ben oui, c'est vrai, c'est voilà. Vrai. Qui est d'ailleurs de la même boîte qui fait Firefox.
Tout à fait. Oh mon dieu, mais tout, c'est trop lié.
C'est trop beau.
C'est trop mignon.
C'est trop beau. oui, en fait, on a eu la chance aujourd'hui d'avoir tous les deux choisi des folklores assez populaires. Donc, pareil, moi, sur le Kitsune, il y a énormément de références dans les jeux vidéo, les mangas, etc. On a vraiment... Sinon, en fait, on ferait un podcast que de référents. Donc, on en choisit chaque fois 5 ou 6 chacun, pas plus.
Voilà, donc surtout, n'hésitez pas à nous partager vos références sur les réseaux sociaux. Je répète, sur Facebook, folklore-le-podcast, et sur Twitter, @lefolklore. Bon, ben voilà, je pense qu'on a fait le tour.
Ben oui, exactement. C'est la fin de cet épisode de Folklore. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode.
Et si notre contenu vous a intéressé, si vous voulez nous aider à nous faire connaître, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux et puis à partager cet épisode, voire les épisodes précédents également. D'ailleurs, on m'a lancé personnellement un défi sur Twitter suite à la publication de l'épisode 2 où je présentais Tumatuenga, un des enfants dieux de la mythologie maori. Et je vais relever ce défi pour un épisode bonus, donc stay tuned, comme on dit.
Eh ben, j'ai hâte d'écouter ça et de te laisser te débrouiller toute seule.
Ça va être un peu la merde, mais je... voilà.
Je rappelle que Folklore est disponible sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et sur les applications Android comme Podcast Addict et Pocket Cast. À très bientôt tout le monde, ciao ciao.
Ciao et surtout restez chez vous.